le premier son?
Je me souviens évidemment pas du premier son que j'ai entendu, mais j'ai souvent l'impression, quand il m'arrive de me réveiller dans une situation très particulière, notamment quand il a neigé, dans un endroit comme Paris où on s'attend pas forcément à avoir de la neige, d'avoir une qualité de silence qui est toute neuve. Et quand je me réveille dans ce contexte-là, je suis d'abord étonné. J'ai l'impression, bon, d'un certain point de vue, j'entends rien parce que c'est du silence. Mais en même temps, ce silence est tout neuf, tout vierge, comme si c'était le tout premier silence que j'entendais.
Qu'est-ce qui est fragile ?
Pour moi, peut-être l'emblème de la fragilité, ça serait ce qu'on appelle en musique, et pas seulement en musique, le phrasé. Le phrasé comme une manière de dessiner vraiment une sorte de ligne ou de lien peut-être entre les choses et qui est fragile parce que c'est irrépétable, parce que c'est chaque fois singulier et chaque fois ça menace de se casser la figure, de se défaire et c'est à refaire.
Qu'est-ce qui vibre ?
Ce qui vibre, j'ai eu cette expérience que sans doute beaucoup d'entre nous ont eu. C'est un jeu en fait, c'est de jouer de la musique avec des verres plus ou moins remplis d'eau. C'est ce qu'on appelle l'harmonica de verre en fait. On peut avoir toute une série de verres accordés. Et alors quand on frotte la circonférence du verre avec les doigts, c'est assez étonnant parce que ça vibre vraiment sous les doigts. On sent le verre qui vibre, pourtant une matière très très solide et qui en principe ne devrait pas bouger. Donc ça vibre sous les doigts et en même temps on a ce son complètement cristallin qui évoque une sonorité presque pure et qui elle ne vibre pas. Alors ce contraste entre la matière qui vibre vraiment sous les doigts et le son qui est pur est très fort.
Qu'est-ce qu'on voit ?
On voit beaucoup de choses. Moi j'aime bien le moment où le matin, encore une fois le matin au réveil, quand on se rendort pas exactement, mais on ferme les yeux, on reste les yeux fermés. Et alors là, on voit, on a encore un vague, une sorte de halo des images de la nuit, mais on voit aussi les paupières. Et on voit une sorte de tenture étrange, avec un rouge plutôt noir, un peu moiré comme ça, et j'aime beaucoup ce moment.
Bonsoir à vous, voilà Supersonic. Parfois, c'est bien d'y réfléchir. Si, oui, c'est bien. Il faut saisir la liberté à portée de main et la mélanger avec d'autres choses qu'on a aussi à portée de main. Parce que oui, le mystère n'est pas qu'au bout du monde. On le trouve facilement, le mystère, à questionner l'évidence trop évidente pour être honnête. Décortiquons l'oreille, l'onde, la transmission, les effets, les causes, les histoires. Mettons la langue et la note l'une dos à l'autre et tentons le dialogue. Il faut trouver le geste nouveau, dessiner le corps qui sort du son. C'est un geste de philosophe écoutant. La culture a ses machines, les machines ont leur culture et leurs observateurs. Salut les androïdes, vous venez à l'instant d'entendre sa voix. C'est l'écrivain, musicologue et philosophe Peter Zendi qui est notre invité ce soir.
Yeah.
manifestement quelqu'un ou quelque chose parle. Who Else Is There, c'est un morceau de Scanner, Robin Rimbaud alias Scanner. Bonsoir Peter Zendi.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur d'une multitude de livres qui nous passionnent régulièrement. On avait eu l'occasion de discuter autour d'un micro il y a quelques années. Maintenant, vous menez, vous continuez de mener une forme de recherche en liberté, questionner l'écoute. C'était ça dans Écoute, une histoire de nos oreilles aux éditions de Minuit en 2001. Et il y a eu aussi, entre autres, Membres fantômes, des corps musiciens, la question de l'écoute, esthétique de l'espionnage, surécoute, esthétique de l'espionnage aussi, les tubes, la philosophie dans le jukebox, tube aussi, chez Minuit, plus près de nous, Apocalypse, l'apocalypse cinéma, non pas l'apocalypse au cinéma, mais l'apocalypse cinéma, et encore plus proche de nous, à coups de poing, une question autour de la ponctuation comme expérience. Tout ça se mélange, ou plutôt se complète, et va nourrir sans doute notre conversation ce soir. Encore une fois, merci d'être avec nous. Alors comment, justement, l'objet de ces livres, qui sont des objets assez variés, on verra comment ils se rejoignent à travers notre conversation ce soir, mais comment ces objets se présentent à vous ?
Mais je dirais qu'on peut peut-être partir du dernier que mm-hmm. vous avez cité, qui s'intitule donc « À coups de poing ouais. » et qui est une sorte de méditation sur la ponctuation. La ponctuation qui pourrait sembler une question très très technique et comment dire restreinte au champ de la pratique de l'écriture, mais que je prends dans un sens très très général mmh. et un sens qui en réalité traverse toutes sortes de domaines. Je me suis aperçu après coup que les ouvrages que j'ai pu écrire sur l'écoute, comme Écoute une histoire de nos oreilles mmh. ou sur écoute, en fait étaient déjà traversés par cette question de la ponctuation. C'est-à-dire j'ai souvent penser l'écoute comme une forme de ponctuation, ce qui paraît un peu étrange à première vue, parce que l'écoute est souvent pensée comme une simple réception mmh. passive.
Une sorte de fluidité évidente, quoi.
Voilà, on a les oreilles grandes ouvertes et puis ça entre.
Il n'y a pas de paupières, alors voilà.
Exactement, exactement. Or, c'est vrai que écouter, je dirais que c'est avant tout marquer. Il mmh. Y a un mot pour ça en anglais, d'ailleurs. C'est même comme ça que s'ouvre le Hamlet de Shakespeare, lorsque le fantôme apparaît et dit à Hamlet « Mark me », ce qui est traduit par « écoute-moi ». Donc si écouter, c'est marquer, c'est vrai qu'en écoutant, en fait, on ponctue. C'est comme si on plaçait sans cesse dans son esprit des points d'exclamation, des points d'interrogation, des points, des virgules, des liens, des traits d'union, des tirets, etc. Écouter, donc, pour moi, c'est ponctuer. Ce que, d'ailleurs, on voit très bien au concert. J'en avais parlé un peu dans « Écoute une histoire de nos oreilles ». Qu'est-ce qu'on fait au concert, mm-hmm. que ce soit classique ou rock ou jazz finalement, on applaudit, on siffle, on respire, on retient son souffle, on phrase mm-hmm. en quelque sorte. Et c'est cette même question de la ponctuation, dans ce sens très général, ce que j'appelle une stigmatologie, pour oui. reprendre un vieux mot qui est en réalité très simple, puisque le radical c'est stigmé, mm-hmm. qui est le point. La stigmatologie, donc, c'est l'art de mettre des points, l'art de ponctuer. Et c'est ce même art que finalement on pratique sans le savoir du tout quand on regarde. Il y a un monteur de cinéma, Walter Murch, qui est aussi un grand théoricien de son art, l'art du montage, qui a écrit un merveilleux livre qui s'intitule « En un clin d'œil » en français, dans lequel il explique que finalement, quand on regarde, on ne cesse de battre des paupières, on le sait tous, parfois on le fait un peu plus vite quand on est ému, parfois on regarde quelqu'un avec qui on converse, on ne cesse de cligner des yeux, ou au contraire on est tellement attentif qu'on garde les yeux ouverts sans ponctuer justement. Et il a cette très belle image qui est que si on ne clignait pas des yeux, la réalité visible, visuelle, serait comme un texte sans espace, sans blanc, sans ponctuation.
Et d'ailleurs, ça se traduit dans un film, dans Orange Mécanique. On ouvre de force les paupières du héros quand on veut lui imprimer le cerveau sans nuance.
Absolument, ça c'est une scène qui m'a toujours fasciné, qu'on a, je crois, tous dans les yeux, si j'ose dire. Et ça serait vraiment, bon, c'est une scène de torture, bien sûr, de contre-torture, de contre-violence exercée à l'égard de ce héros, Alex, qui est lui-même sadique, tortionnaire, etc. Et alors on le soumet à une sorte de d'absence totale de ponctuation. On pourrait penser ici à une expression chez Lacan qui dit vraiment cette espèce d'angoisse psychotique, en quelque sorte, qui pourrait être le vécu d'Alex, ou de nous tous à la place d'Alex, si on ne pouvait pas cligner des yeux. Lacan parle dans un certain texte de ce qu'il appelle une ponctuation sans texte, et qui serait pour lui le réel. C'est-à-dire le pur réel tel qui viendrait nous frapper sans qu'il puisse s'inscrire dans un sens, dans ce que Lacan appellerait le symbolique. Et donc, ne pas cligner des yeux, être en quelque sorte purement exposé au réel dans cette violence qui n'a pas de sens, c'est l'expérience d'Alex, et c'est l'expérience d'un texte qu'on pourrait pas phraser, un texte non ponctué.
Et je crois que à l'origine de ce texte sur la ponctuation, à coup de point, POINTS, il y avait le simple fait pour vous de devoir faire le point sur vos travaux, sur vos recherches.
Absolument. Alors c'était cet exercice universitaire, académique qu'on appelle l'habilitation à diriger des recherches, tout chercheur et enseignant est censé faire à un moment, passer par ce rite de passage, qui m'a longtemps posé problème parce que l'une des contrainte de cet exercice académique, c'est en quelque sorte de rassembler tout ce qu'on a fait et de produire une sorte d'autobiographie intellectuelle, ce qui, je dois l'avouer très sincèrement, me terrorisait tout simplement. Je me disais que j'étais incapable de faire cet exercice, jusqu'au moment où dans mon esprit a surgi cette expression très courante en français, faire le point. Mmh. Il faut que je fasse le point sur ce que j'ai fait. Et alors, au lieu de tout simplement raconter ce que j'ai fait en donnant un semblant de logique qu'il ne m'appartient pas de donner, mais que les lecteurs doivent trouver, je me suis dit, je vais travailler sur cette expression, faire le point. Et donc, c'est de là qu'est née cette sorte de théorie générale de la ponctuation que j'ai appelée la stigmatologie.
Mmh. Et justement, à propos de traces, à propos de stigmates, à propos d'impressions, finalement, la part d'émotion du créateur, du compositeur, qui passe à travers ses musiques, y compris à travers les siècles ou cette ponctuation, qui est aussi la marque de l'émotion imaginée par l'auteur, qui passe à travers le texte. Est-ce que c'est pas justement ça qui vous une des choses qui vous intéresse au fond, c'est une forme de langue souterraine qui est inscrite sur une œuvre qui s'offre et qui en même temps donne une forme de code à l'intérieur d'elle-même.
Alors c'est vrai que les œuvres, ce qu'on appelle des œuvres en musique ou en littérature d'ailleurs, ou dans le cinéma, les œuvres sont elles-mêmes déjà ponctuées. On le sait tous, la musique ne cesse d'être ponctuée. Il y a des cadences, il y a des phrases, des silences, des pauses. Il y a même ce que Boulez, à une époque, appelait des signaux. Par exemple, une sonorité de trompette ponctuée justement par un coup de cymbale. Enfin, il y a des marqueurs en fait qui guident, qui dirigent l'audition et auxquels l'auditeur doit se plier en quelque sorte.
Les partitions de musique contemporaine souvent ne sont presque plus que ponctuation d'une certaine manière.
Absolument, absolument. Mais alors après, il y a la ponctuation de l'auditeur. Donc finalement, quand on écoute, on surimpose des phrases, une manière de phraser qui ne correspond pas nécessairement, qui souvent ne correspond pas à la ponctuation qui est en quelque sorte intérieure à l'œuvre et qui tient à l'écriture de l'œuvre. Surtout, je dirais, avec les moyens technologiques de l'écoute dont on dispose, avec cette écoute appareillée qui est désormais la nôtre, où on arrête, on reprend, on avance, on revient en arrière, on va directement à tel passage. Donc finalement, l'auditeur lui-même a à sa disposition toute une gamme, tout un spectre de moyens de ponctuation. Et alors, moi j'aime bien penser finalement l'écoute comme cette espèce de guerre des points, finalement. C'est à qui mettra des points contre d'autres points. Donc on pourrait évidemment convoquer la figure éminemment musicale et avec une longue tradition derrière elle, du contrepoint, mais dans un sens tout à fait étymologique et simple, finalement, point contre point, c'est-à-dire comme si, non pas deux voix chantées ensemble en contrepoint, mais comme si l'œuvre était une voix contre laquelle vient vocaliser cette autre voix qui serait celle de l'auditeur, un auditeur sans voix peut-être, un auditeur qui chante pas nécessairement, même s'il peut le faire en lui-même, mais disons deux lignes rythmiques, deux types de phrasés qui à certains moments s'épousent, se marient, marchent ensemble, et puis à d'autres moments sont en guerre ou en décalage en quelque sorte.
Est-ce que une manière, à titre personnel, d'assumer ce décalage, vous en tant qu'auditeur ou en tant que lecteur, c'est pas finalement ce que vous faites, c'est-à-dire d'écrire, de réfléchir et d'écrire sur les œuvres ou sur l'écoute elle-même ?
Alors c'est vrai que écrire sur les œuvres ou sur l'écoute, c'est finalement une expérience très étrange, très plaisante aussi, qui consiste, je dirais, pour le dire très simplement, qui consiste tout simplement à ralentir ce qui se passe dans l'écoute réelle. C'est comme une espèce d'immense extension, expansion du temps de l'écoute. C'est un petit peu la même chose que je pratique et que j'aime, enfin pas seulement moi, mais beaucoup de gens, lorsque je regarde des films, par exemple sur mon écran d'ordinateur qui est partagé en deux. Mmh. Il y a d'un côté le film et je peux m'arrêter, revenir, etc. Puis il y a de l'autre côté un document qui est ouvert, qui est le texte que j'essaye d'entrelacer avec ce film. Et là, il y a finalement cette expérience de ponctuation par des mots, par des descriptions, par des métaphores, mais aussi de ponctuation rythmique, tout simplement. Je mets un point, je m'arrête, j'ouvre, je vais vers l'image, je reviens au texte, ou la même chose donc pour le son. Et cette expérience de l'aller-retour, finalement, qui est une sorte de ralentissement de lexicalisation, si on peut dire, de ce qui se passe au fond dans toute écoute ou dans tout regard en temps réel.
Ce qu'on entend aussi dans ce que vous dites, et parfois dans certains de vos textes, c'est une attention particulière, Peter Zendi, à une forme de battement, c'est-à-dire à la fois d'extension par moment et d'ultra-densification, soit du temps ou simplement souvent la question du temps d'ailleurs. Il y a comme un battement de cœur dans votre grille, soit d'écoute, soit de lecture et d'analyse.
Alors, effectivement, je crois qu'il y a dans l'écoute ou dans le regard, il y a quelque chose comme une pulsation, je dirais. Une pulsation qui est... Alors, il me vient en mémoire une magnifique image qui peut-être peut résumer ce que je veux dire au fond. Elle se trouve dans un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, d'un écrivain allemand qui s'appelle Gerd Hoffmann, et qui a raconté l'histoire de son grand-père, qui était cet étrange personnage qui a existé au temps du cinéma muet, ce qu'on appelait le bonimenteur. Mmh. Et donc son grand-père commentait en quelque sorte des films pour le public, voilà. Et le livre s'achève pratiquement sur cette très belle image. L'auteur dit que les films à l'époque tremblaient. Alors c'est vrai qu'on a tous cette expérience des vieux films dont l'image tremble un peu. Et puis il se tourne vers son grand-père. Son grand-père lui dit, mais c'est pas le film qui tremble, c'est en fait le cœur, le battement de cœur du bonimenteur qui fait trembler l'image, qui fait pulser l'image. Mais je crois que c'est ça qui se passe à la fois quand on écoute, quand on regarde. C'est-à-dire finalement c'est la pulsation de l'écoute elle-même ou la pulsation du regard lui-même avec ses clignements d'yeux, avec ses ponctuations, etc., qui donne une certaine vibration ou un certain phrasé à ce qu'on entend ou à ce qu'on voit.
Transculture supersonique de Thomas Baumgartner.
Getting away, I'm in love. Oh.
groupe s'appelle Skriti Politis, un groupe anglais. L'album d'où est extrait de cette chanson, c'est Songs to Remember, chanson dont on doit se souvenir, à se souvenir. Et le titre de cette chanson, c'est Jacques Derrida. Vous connaissiez la chanson ?
Oui, absolument. Oui.
Peter Zendi. C'est tout d'un coup plusieurs tiroirs à ouvrir avec ce titre d'album et ce titre de chanson. Est-ce qu'on peut dire que c'est Jacques Derrida qui vous a ouvert la porte de cette liberté de réflexion et d'écriture qui est la vôtre ?
Je peux le dire sans réserve, comme un hommage sans réserve. C'est vrai que la découverte de l'œuvre de Derrida d'abord, et puis ma rencontre avec Derrida lui-même, d'abord au cours de ses séminaires à l'École des hautes études que j'ai suivi pendant plusieurs années, et puis ensuite au cours de colloques. Puis j'ai eu la chance tout simplement de le connaître comme personne. C'est peu dire que ça m'a ouvert tant de choses. Ça m'a appris à lire, à entendre, à voir, à penser. J'ai tout appris.
Mais notamment, oui, cette idée de que tout peut être saisi, c'est une grande chose que Jacques Derrida a amené. Effectivement, il peut faire un livre sur les cartes postales et ça devient fascinant, passionnant. Ce geste est le vôtre.
Alors, j'aimerais bien, si ça pouvait être le mien. C'est vrai qu'il y a chez Derrida une liberté dans le choix des sujets. Évidemment, la façon dont je le dis là est pas du tout bonne. C'est-à-dire, je pense pas qu'il ait choisi librement des sujets. Je pense qu'il y a des choses qui se sont imposées à lui avec une nécessité, intraitable. Mais cette liberté, disons comme ça, se double toujours d'une exigence qui vient d'une conscience aussi de l'histoire. C'est-à-dire, je pense que jamais Derrida ne répète tout simplement des discours. Il y a toujours cette grande conscience de toute l'historicité qui a conduit qui a configuré un champ, disons, que ce soit le champ du discours politique, le champ de la littérature, et en même temps il y a ces débuts de livres, par exemple ces amorces qui m'ont toujours frappé chez Derrida. Je pense à un livre magnifique comme Politique de l'amitié qui s'ouvre par une question. C'était aussi le cas de ses séminaires qui s'ouvrait par une question et on était complètement perdu. C'est-à-dire une question tout simplement, combien sommes-nous, par exemple. Et vous savez absolument pas de quoi il parle, de quoi il s'agit. Ce sont ces débuts, comme on dit en latin, in medias res, c'est-à-dire il vous jette au milieu de quelque chose. Vous êtes dans un océan de questions souvent, qui peu à peu se configure lentement et inexorablement, et puis vous vous retrouvez au milieu de tout cet appareil de discours qu'il travaille à déconstruire, à détendre, à desserrer les mailles, etc., avec une grande finesse toujours. Alors j'ai énormément appris de tout ça. Oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'il autorisait ou qu'il peut appeler à autoriser l'incertitude ou la fragilité à l'intérieur justement d'une réflexion ?
Certainement, je suis tout à fait d'accord avec cette formulation. Autoriser l'incertitude ou la fragilité, c'est-à-dire c'est pas une incertitude qui serait une facilité, voilà, mais il s'agit de construire en quelque sorte ou de d'étayer cette incertitude en montrant précisément là où l'incertitude ou ce qu'il appellerait peut-être plutôt l'aporie, le paradoxe, travaille au cœur même des édifices apparemment les plus solides, comme le discours de la tradition philosophique, métaphysique, ces grandes architectures discursives qui, à un certain moment, dans l'auscultation à laquelle Derrida les soumet, se mettent à trembler, à montrer des points de fragilité. Donc il s'agit finalement de la faire surgir, de l'instruire en quelque sorte, cette fragilité. Ça aussi, c'est une grande leçon.
Tais-toi, ne parle pas. Tiens, au lieu de jouer à l'infirmier, si tu veux te rendre utile, change les piles de ma radio. Les piles neuves sont derrière toi, là-bas.
Madame Bouchard, je vous apporte vos médicaments.
Merci. C'est formidable, ces petites pilules. Je t'assure. Tu vois, celle-là, elle te donne de l'appétit. Celle-là, elle te fait dormir 5 heures de suite. Et j'en ai même une qui tranguait. Si. T'en prends deux et tu éclates de rire toute seule dans ton lit. Tu devrais essayer.
Non, merci, ça va très bien.
crois ça? Quand tu viens me voir, tu t'emmerdes à 100 sous de l'heure, hein, avoue.
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, mais... Tiens, il marche maintenant, ton poste.
Je crois avoir retenu que vous souhaitiez...
Je suis content que tu t'intéresses aux nouvelles, de savoir ce qui se passe dans le monde.
Non. J'écoute uniquement les chansons. Parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent... Ne me quitte pas... Ton absence a brisé ma vie. Oh, je suis une maison vide sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Ou bien, sans amour, on n'est rien du tout.
Bon, Mathilde. Il faut que j'y aille maintenant.
Je suis venu te dire que je m'en vais.
J'en viendrai.
Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret. Te dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire.
Serge Gainsbourg, évidemment, je suis venu te dire que je m'en vais. Et justement, c'était un extrait de La femme d'à côté de François Truffaut, Fanny Ardant face à Gérard Depardieu. Et Fanny Ardant qui, là, intègre Peter Zendi, en tout cas dit très naturellement des choses que vous développez d'une certaine manière dans ce livre que vous avez consacré au tube, Tube, la philosophie dans le jukebox. Bah oui, c'est ça, ça parle, ça nous parle à nous, ça nous parle pour nous, et aussi vous dites, le tube parle de lui-même.
Oui, le tube parle de lui-même, comme le dit magnifiquement, en effet, la voix de Fanny Ardant dans cet extrait que je ne connaissais pas et qui me ravit absolument. Le tube parle de lui-même et ce tube que vous avez choisi, Je suis venu te dire que je m'en vais, est à cet égard tout à fait exemplaire, mais exemplaire comme le sont finalement tous les tubes. Le tube est chaque fois, je dirais, un exemple. Il est à chaque fois exemplaire de lui-même. Ici, par exemple, donc, je suis venu te dire que je m'en vais. On peut ponctuer cette phrase à l'écoute. Le tube, c'est le tube qui dit je, en fait. Hein, c'est la chanson qui dit je. Je suis venu te dire, c'est ce que montre magnifiquement un autre film, alors pour le coup de Alain Resnais, on connaît la chanson, où ce tube intervient. Et lorsqu'il intervient, eh bien, il remonte en quelque sorte dans la mémoire d'un personnage. Et il vient lui dire quelque chose, mais il vient lui dire quoi? On ne sait pas très bien. Le tube peut dire tout et n'importe quoi. On sait bien, chacun de nous projette dans cette forme qu'est le tube des souvenirs, des pensées inconscientes, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il vient dire. Il vient dire tout ce qu'on veut, finalement, tout ce qu'on voudra verser dedans comme contenu. Il vient le dire et puis il s'en va. C'est l'expérience qu'on fait de cette sorte de mémoire involontaire. Ce qu'un psychanalyste comme Theodor Reich a très bien décrit en parlant de la mélodie obsédante, ce qu'il appelle en anglais the haunting melody, c'est-à-dire ces mélodies fantômes qu'on a peut-être sur le bout des lèvres quand on se réveille, on ne sait pas pourquoi. Et donc ces mélodies qui viennent nous dire quelque chose, parfois en se souvenant des paroles, on arrive à reconstituer, ouais. Ah oui, c'est ça qu'elle voulait me dire. Et puis elle s'en va, on l'oublie, et puis elle revient. Et donc cette chanson Gainsbourg dit tout simplement, on parlait de pulsation tout à l'heure, cette espèce de poussée, presque de pulsion en fait, d'aveu ou du tube qui vient dire quelque chose et puis qui s'en va. Et c'est parce qu'il s'en va qu'il revient. Et c'est parce qu'il revient qu'il s'en va. Et donc il y a cette...
Et là on pense à un autre tube qui disait exactement ça.
Exactement, ça s'en va et ça revient.
C'est vrai,
voilà.
Ouais.
Et qui décrit tout simplement le fonctionnement alors du tube en général et plus précisément son fonctionnement mnémonique ou mémoriel. C'est-à-dire, c'est... Parce que les tubes nous obsèdent en fait. Voilà, ce sont des mélodies obsédantes, on essaye parfois de les chasser, on n'y arrive pas toujours, etc. Mais donc, donc ils ne cessent de revenir et de repartir pour habiter un peu comme des fantômes justement cette mémoire sonore qui construit en fait malgré nous, parfois aussi avec notre complicité bienveillante, ce qu'on pourrait appeler une autobiographie en musique, vraiment au sens strict de l'expression. C'est-à-dire c'est pas une autobiographie qui se raconterait accompagnée de musique, mais une autobiographie que chacun écrirait comme la bande son de sa vie, marquée par telle ou telle chanson qui vient incarner tel ou tel moment important pour toujours, qui devient la métonymie de ce qui m'est arrivé. Et c'est vraiment le point d'ancrage d'une expérience, et ça revient et ça s'en va.
Mais toujours une avec l'idée d'une fin, du souvenir d'une fin, peut-être de quelque chose d'autre qui commence, mais vous dites, il y a non seulement quelque chose de l'ordre de la mélancolie, mais même de la nostalgie à l'intérieur du tube.
Oui, alors ça, bon, je le dis en pensant à toutes sortes de gens qui l'ont dit aussi avant moi, en particulier à Fellini, qui l'a dit très très bien dans un entretien que j'avais cité dans Tube, dans ce livre consacré à la philosophie dans le jukebox, un entretien que Fellini a réalisé avec un chanteur italien que j'aime beaucoup, qui est Lucio Dalla, auteur de nombreux tubes. Et alors, dans leur conversation, Fellini dit à un moment, mais si j'imagine mes derniers instants, voilà, l'instant de ma mort au fond, eh bien, je crois, dit-il, que toute ma vie me reviendrait sous la forme d'une chanson. Donc il y a effectivement cette dimension de nostalgie, ou plus exactement ce que Fellini appelle le « j'y étais », voilà, la chanson qui finalement revient pour nous dire « eh bien j'y étais », et qui serait un peu l'équivalent chansonnier, ou l'équivalent dans l'élément de la chanson de ce que Barthes, dans ce magnifique livre intitulé « La chambre claire », appelait le « ça a été » de la photographie. Alors Barthes disait « toute photographie inclut en elle ce « ça a été », c'est-à-dire ce qu'on voit sur la photo, ça a été là, devant l'objectif. Mais la chanson, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas une photo, c'est plutôt une phono, si j'ose dire, un phonogramme. Mais c'est un phonogramme qui inclut pas nécessairement un ça a été, mais qui inclut un j'y étais. Voilà. Donc quand elle nous revient en mémoire, eh bien, c'est tout un pan d'une vie, un moment, à tel âge, j'étais là, dans tel contexte, avec telle ou telle personne. Et c'est ça qui revient. Donc j'y étais, comme le disait Fellini. Très bien.
Mais alors, vous avez un moment dit le mot incarnation, il y a aussi le mot incorporation. Finalement, le tube est inscrit dans notre corps de la même manière. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la même manière que une écoute nous est transmise? C'est ce que vous développez dans une histoire de nos oreilles. La question de l'arrangement, c'est l'écoute d'une personne qui a écouté une première fois une œuvre et qui l'arrange d'une certaine manière, qui transmet sa propre écoute. Est-ce que, par exemple, le batteur sur un tube, quel qu'il soit, nous transmet aussi son geste. Il y a tout ça, c'est une transmission de geste aussi, par l'oreille.
Alors, c'est vrai que moi, je vois toujours l'écoute comme finalement une stratification. Et je crois que cette expérience de l'écoute vaut aussi bien pour les tubes que pour d'autres types d'écoute. Une stratification dans un sens très précis, c'est-à-dire que lorsqu'on écoute quelque chose, quoi que ce soit, ça vaudrait même pour un discours, pour une conversation, finalement, c'est jamais l'auditeur qui est tout simplement face à un objet sonore qui se donne à entendre, mais il y a déjà toutes sortes d'autres écoutes qui sont là, inscrites dans la situation d'écoute. Donc on n'est jamais seul face à ce qui se donne à entendre. Il y a d'autres oreilles, des oreilles qui sont soit marquées, inscrites dans ce qu'on écoute, ou bien d'autres oreilles qui sont en nous. Moi, je sais pas vous, mais moi je ne cesse de dialoguer avec moi-même, c'est-à-dire avec d'autres en moi, pendant que j'écoute. Je me dis des choses, je me raconte des histoires, je me donne des injonctions, je me dis là écoute, et puis je me commande ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire que du coup j'écoute pas vraiment d'ailleurs, mais je me raconte d'autres histoires.
Et ça, c'est l'expérience qu'on peut faire quand on écoute une même chose dans différents endroits et avec différentes personnes, seules ou en compagnie. compagnie, etc. Et on se rend compte qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas les mêmes choses.
Tout à fait, tout à fait. Et puis il y a aussi les, disons, l'expérience symétrique aussi de vouloir donner à entendre quelque chose, ce qui est toujours assez à la fois très excitant et très frustrant, parce que on est là face à l'autre à qui on veut faire entendre ce qu'on aime, par exemple, un très très beau passage, et puis on ne cesse de lui dire bon c'est là, on ne cesse
de
mettre en œuvre, voilà, de sorte de feu d'artifice finalement, de marqueurs et de ce que les linguistes appellent les déictiques, c'est-à-dire tous ces pronoms qui désignent ceci, cela. Donc on ne cesse de pointer, on dit c'est là, c'est ici, c'est là, et puis finalement on s'aperçoit que eh bien l'autre n'écoute pas comme on le voudrait, voilà. Donc c'est mais ce que je veux dire, c'est que cette expérience de vouloir donner à entendre, ou symétriquement ou réciproquement, cette expérience d'écouter et en fait d'être déjà guidé, d'être déjà comment dire, écrit en quelque sorte dans son écoute, on la fait sans cesse, si bien que l'écoute n'est jamais simple. Il y a toujours une sorte de stratification entre mes oreilles et ce qui se donne à entendre. Donc finalement tout ce mythe selon lequel les oreilles sont une pure réceptivité, ça ne veut rien dire. Moi, ce qui me passionne, c'est tout ce qui peuple l'espace entre mes oreilles et ce que j'entends. Voilà. Et il y a beaucoup de fantômes et beaucoup de gens là-dedans.
Mais ce qui est impressionnant, effectivement, c'est cette question du corps. C'est que, effectivement, on a tous fait l'expérience de, au-delà de la danse même, du geste lié à la musique, de ressentir peut-être à un moment, sur une surprise, par exemple, de tel ou tel mouvement ou de tel ou tel passage d'une chanson, de sentir son corps réagir presque avant l'esprit ou avant l'intellect. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de vous parlez de fantômes, mais ce sont des fantômes très, très concrets, très incarnés.
Tout à fait. C'est-à-dire, il faudrait surtout pas penser cette stratification comme quelque chose d'immatériel ou de purement symbolique. Au fond, je pourrais peut-être convoquer un mot qui est un mot assez mystérieux, mais très beau, que je trouve chez Walter Benjamin. C'est le mot de ce qu'il appelle l'innervation. Innervation. Et l'innervation, évidemment, on pense à quelque chose de physiologique, c'est-à-dire le réseau de transmission nerveuse qui anime tout corps, mais au fond, dans le sens que lui donne Benjamin, on peut penser cette innervation comme quelque chose qui dépasse mon corps, les limites de mon corps. La radio, finalement, est une forme d'innervation de l'espace social, ou bien tous ces instruments d'écoute, de regard, les médias, au fond. Ce sont des prolongements de l'innervation corporelle. Donc ce qui se passe, en fait, c'est effectivement une sorte de transmission physique, matérielle, pas seulement, bien sûr, comme on peut facilement le penser, parce que le son est une vibration de la matière, mais aussi parce que cette vibration de la matière passe par toutes sortes de relais qu'il faudrait penser comme un système nerveux qui dépasserait largement mon corps.
Le grand corps des ondes, c'est la conversation avec vous ce soir dans Supersonic. Peter Zendi, dans un entretien, vous rappelez que le musicien, un chanteur, Rodolphe Burger, voulait avec Catonoma faire des tubes clandestins. En voilà.
Il y a comme un bruit quand vous passez devant l'immeuble en rose, vos gants de balle, de clochettes ou de clés. Il y a comme un bruit. Au petit jour, sous ma fenêtre close, vos robes d'été, votre linge, vos draps. Et puis vous repassez.
France Culture, vous êtes à l'écoute de Supersonic, de Thomas Baumgartner.
Où l'avez-vous perdu cette nuit-là? Sous les feux de quel phare, l'air des bijoux, la démarche lointaine. Où l'avez-vous perdu? Où l'avez-vous perdu? Si vous sonnez chez moi, démaquillé, avant de m'endormir.
comme un bruit. Catonoma, Rodolphe Burger, pour continuer cette conversation avec vous, Peter Zendi, je me demandais si, à travers tous vos objets d'études, y compris d'ailleurs l'Apocalypse Cinéma, qui a fait l'objet d'un livre chez Capricci il y a deux ans, trois ans, c'était au moment de la fin du monde, c'est ça, 2012, 12-12-12, s'il n'y a pas une question de voyage dans le temps, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que ces marques, ces ponctuations, ces impressions, ou ces expressions qui sont intégrées dans notre corps, dans nos oreilles, sont des marques transmises à travers le temps, que ce soit celle du compositeur, de l'arrangeur, que ce soit le message du tube dont vous parliez tout à l'heure, et qui nous parle d'un moment fini, d'une émotion qui rejaillit, malgré le fait que c'est terminé, j'y étais, mais je n'y suis plus. Et puis donc cette question de la représentation de la fin du monde au cinéma, au début de ce livre Apocalypse Cinéma, vous parlez d'une sorte de film indépassable à ce propos-là, qui est Mélancolia de Lars von Trier, et de votre émotion face à, pour qui n'a pas vu ce film, il faut le voir d'une part, et puis on le sait, c'est l'histoire justement d'une fin du monde, et puis il y a cet écran noir à la fin, et vous racontez cette émotion-là, et pourtant, malgré la fin du monde, on reste vivant et il y a le générique qui commence, générique de fin de ce film. On est bien dans une histoire de transmission à travers le temps.
Alors oui, ce film est extraordinaire. Enfin, je n'oublierai jamais l'émotion, le choc, enfin, de cette fin, parce qu'il s'agit d'une fin du monde, de la fin d'un monde, mais qui se présente quand même comme la fin du monde. Une fois pour toutes, tout le film construit en fait cette conviction dans chez le spectateur. Il n'y a pas d'autre monde, il n'y a pas d'autre planète habitée, il n'y a rien d'autre. Et donc, quand ça finit, c'est vraiment fini. Il n'y a aucun autre monde, il n'y a pas de survivants, c'est la fin pure et simple.
C'est Charles Gainsbourg qui le dit, non?
Oui. c'est surtout le noir, noir final qui dure une éternité. C'est 10 secondes, quelque chose comme ça, mais au cinéma, c'est sans fin. Mm-hmm. Et on est dans le noir, dans le silence, et c'est absolument bouleversant. Alors j'ai beaucoup réfléchi sur cette fin qui pour moi entrait en résonance avec une phrase de Jacques Derrida, dont on parlait tout à l'heure. Une phrase qui fait le titre d'un ouvrage de Derrida, qui est un recueil d'épitaphes, en quelque sorte d'hommages posthumes à des amis disparus. C'est une quasi-phrase, c'est la suivante, chaque fois unique, la fin du monde. Et cette phrase mystérieuse, Derrida tourne beaucoup autour, en disant que finalement c'est ça qu'il faudrait essayer de penser, c'est qu'à chaque disparition, à chaque deuil, c'est pas un monde qui finit, mais c'est le monde. Voilà. Il n'y a plus de monde. Et pourtant, c'est chaque fois. Voilà. Donc c'est chaque fois unique, la fin du monde, et pas seulement d'un monde, mais c'est chaque fois. Donc ça se répète. Vous me demandez s'il n'y a pas dans tout ça une dimension de transmission, de...
Le voyage dans le temps, elle vous dit carrément.
Voyage dans le temps. Alors c'est vrai que je me rends compte, rétrospectivement, qu'il y a dans tout ce que j'ai pu écrire, ce geste, disons, généalogique ou archéologique, essayer de reconstruire, de prendre conscience, de faire émerger tout ce qui détermine finalement le simple fait de sentir, d'écouter, de regarder, tout ce qui détermine ce qu'on peut appeler l'esthétique au sens propre du terme, c'est-à-dire la sensation, cette sensation qui semble naître spontanément et qui pourtant est déterminée par toute une histoire. À chaque fois que je tends l'oreille, ce sont des siècles qui tendent l'oreille en moi. Alors j'ai toujours ce réflexe, en quelque sorte généalogique ou archéologique, et en même temps, je crois aussi qu'il se produit des événements, pas seulement des événements historiques, mais à chaque fois que j'écoute, chaque fois que je regarde, c'est ou ça peut être un petit événement qui est en rupture totale avec cette histoire. Il y a la possibilité d'inventer quelque chose par l'écoute, par le regard, de regarder comme personne n'a jamais vu, d'écouter comme personne n'a jamais entendu. Et donc là, c'est chaque fois unique, justement. Peut-être pas la fin du monde, mais la fin d'une tradition qui est pourtant là aussi.
Thank you.
qu'il y a aussi, Peter Zendi, après un extrait de la bande originale de Mélancolia, est-ce qu'il y a aussi dans vos recherches l'idée de se dire, je vais essayer d'aller comprendre, de donner les outils pour comprendre une écoute, une lecture, à la fois la comprendre totalement, tout en sachant que justement, du fait que une écoute peut être constamment renouvelée et unique, en sachant qu'on n'en fera pas le tour, mais en même temps qu'on peut continuer à plonger en elle.
Oui, il s'agit évidemment de d'écrire, de comprendre comment une écoute se construit, comment elle se configure, et je pourrais dire la même chose d'un regard ou d'une lecture, comme vous disiez. Mais en même temps, ce qui me soucie toujours, c'est d'arriver au bout, en quelque sorte, de ce territoire qu'on peut connaître, et de réserver ou de rencontrer au bout de cette terre connue, là où la frontière, disons, sur laquelle peut surgir l'événement d'écoute, l'événement du regard, l'événement d'une lecture. Il y a chez Hannah Arendt, dans un texte qu'elle avait consacré à ce qu'elle appelait la crise de la culture, il y a cette phrase qu'elle laisse tomber comme ça, et dont elle ne dit finalement pas grand-chose, mais qui, pour moi, reste une sorte de programme de pensée. Elle dit que... elle envisage qu'on puisse lire comme si personne n'avait jamais lu auparavant. Or, c'est vrai que quand on lit des textes, mais aussi quand on écoute de la musique, ou quand on regarde des images, eh bien, on regarde, on lit, on écoute avec les yeux, les oreilles, qu'on hérite de siècles et de siècles. Mais en même temps, je crois qu'il faut essayer de penser la place ou la possibilité de ce que je n'arrive pas à appeler autrement qu'un événement d'écoute, ou un événement de lecture, un événement de regard, c'est-à-dire la possibilité, comme dit si joliment Hannah Arendt, de lire ou écouter, regarder, comme si personne ne l'avait fait auparavant. Voilà. C'est une sorte de virginité, mais qui serait pas première, justement, mais qui serait seconde, c'est-à-dire qui arriverait au bout ou au terme de ce qu'on peut appeler peut-être une déconstruction de l'écoute, du regard ou de la lecture.
Une déconstruction pour arriver à une forme de densité absolue de cette expérience.
Oui, c'est vrai que l'événement d'écoute ou de regard ou de lecture est un point de densité extrême, sans doute. Mais c'est aussi un point de raréfaction finalement. C'est aussi peut-être le point où les mailles d'un réseau se desserrent légèrement pour laisser entrevoir quelque chose qui serait au-delà, une sorte de d'interstice finalement dans lequel quelque chose peut arriver. Parce que c'est seulement dans les interstices que quelque chose peut se produire. Finalement.
Ça veut dire aussi quand on ne s'y attend pas.
Exactement. Ouais. Exactement. C'est tout ce qui finalement échappe à l'anticipation, au programme, au savoir. Il y a évidemment, on le sait pour l'écoute, mais aussi pour le regard. Il y a tout un savoir écouté dont on hérite. Il faut écouter comme ceci, comme cela. Il faut faire attention à tel aspect de la musique. Donc il y a tout un art, ce que Nietzsche appelle dans un magnifique fragment de Aurore consacré à la musique et la nuit. Et puis aussi il y revient dans un autre magnifique fragment qui s'appelle Conversation sur la musique, ce qu'il appelle l'art d'écouter. Donc il y a une technique d'écoute, il y a un art d'écoute. Mais l'événement d'écoute, s'il arrive pas toujours, c'est quand tout d'un coup, en se portant jusqu'à la pointe extrême de cet art, quelque chose se produit qui n'était pas prévu. Voilà. Et là, c'est tout neuf.
On est dans l'idée de l'épure, alors, plus encore que dans celle de la densité. C'est un moment de laisser faire, de laisser aller, plus ou moins volontaire, et arrive alors cette expérience.
Oui, pour reprendre votre expression, laisser faire, je crois que cette épure ou ce moment de raréfaction qui paradoxalement correspond à un grand moment de densité, parce qu'il y a de l'intensité là-dedans, ce moment de raréfaction où quelque chose se produit à l'écoute, c'est à la fois le moment où on fait faire quelque chose, on écoute intensément et donc on essaye de faire quelque chose à la musique. Et c'est le moment où peut-être se faire faire se renverse en un instant, en un laisser-faire.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, when I grew up and fell in love. I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera.
Ben oui, les sons faire et que sera sera Doris Day dans L'homme qui en savait trop, Hitchcock. Hitchcock qui revient dans vos écrits régulièrement, Peter Zendi. Là, en l'occurrence, on peut dire que c'est une forme de tube, de verre d'oreille, Ohrwurm. Hein, vous parlez, vous donnez cette expression issue de l'allemand, pour dire, c'est l'air entêtant et qui s'en va et revient, comme on disait tout à l'heure. C'est, voilà, quelqu'un qui a su utiliser les différentes manière de d'amener la musique dans ses films, Hitchcock, les différents modes d'écoute.
Oui, alors dans ce film, donc L'homme qui en savait trop, on entend cet air, ce tube à la fin. C'est d'ailleurs un très beau moment parce que on a l'impression presque que la caméra suit le parcours, enfin cette espèce de parcours volatile de l'air qui monte dans les escaliers et qui va rejoindre en fait le petit enfant, le petit garçon qui est détenu prisonnier. Et donc on suit c'est presque comme une sorte de ligne qui voudrait retracer une sorte de cordon ombilical entre la mère qui joue et qui chante cet air et le petit garçon. Et alors en suivant cet air, on relie les deux personnages qui se retrouvent. Par ailleurs, Hitchcock ne cesse d'utiliser des airs, que ce soit par exemple dans L'ombre d'un doute. Alors, L'ombre d'un doute, c'est peut-être pour le coup le film dans lequel Hitchcock, enfin à mes yeux, j'essaie de le dire un peu dans Tube, Hitchcock construit vraiment pratiquement une sorte de traité ou de théorie des tubes. C'est extraordinaire. Il y a sans cesse ces mélodies obsédantes qui reviennent en mémoire dans la tête de tel ou tel personnage, qui sont interrompues, qui à chaque fois qu'elles reviennent en mémoire sont sur le point de livrer la clé de l'intrigue. Donc il s'agit d'une valse, la veuve joyeuse, et la veuve joyeuse qui dit en quelque sorte le mystère policier, hein, qui dit la clé de l'enquête, c'est-à-dire ce personnage qui assassine de riches veuves. Et à chaque fois que cet air est sur le point de livrer le secret, eh bien il est interrompu. Et le personnage de la jeune Charlie, la nièce du criminel, s'exclame à un moment, elle dit en anglais « tunes jump from head to head », c'est-à-dire les airs, les tubes, finalement sautent de tête en tête. Alors là, on a autour de la table avec cette famille réunie, on a presque l'image de la circulation des tubes qui vont se saisir d'une psyché ou d'une âme, et puis vont la laisser ensuite et sauter dans une autre, etc. Donc Hitchcock ne cesse de mettre en scène, je sais pas ce qu'on pourrait appeler une tubologie, c'est-à-dire une science des tubes, au fond, qu'est-ce qu'ils font, comment ils fonctionnent dans la mémoire, quelle est leur économie, leur circulation, quels sont leurs effets.
Et dans L'homme qui en savait trop, c'est aussi le roi de la ponctuation musicale, parce que c'est quand même là le film peut-être où justement la musique, avec la scène des cymbales qui doit couvrir le bruit d'un coup de revolver, un rôle éminemment important dans le scénario et dans la mise en scène. Pour vous d'ailleurs, vous dites quelque part que ces deux cymbales, c'est comme deux oreilles qui se claquent.
Mais ça, c'est très frappant quand vous voyez la scène, quand vous voyez cette séquence. À un moment, il y a un plan extrêmement calculé, comme l'est toujours chaque plan de Hitchcock, et vous avez les cymbales qui pratiquement... c'est filmé entre les deux cymbales, en gros plan, et entre les deux cymbales qui sont comme deux grandes oreilles qui entourent, encadrent l'image, vous voyez l'orchestre, la salle de concert, et donc c'est comme si ces deux cymbales allaient à la fois, vous claquer les oreilles, et en même temps faire une sorte de clap aussi, vous savez, comme ces claps qu'on utilise pour le tournage.
Ouais, donc, voilà, pour synchroniser le son image.
Exactement, donc c'est à la fois une ponctuation auditive, le coup de cymbale, et une ponctuation visuelle. Et puis, c'est surtout aussi un grand moment, comment dire, un moment qui est préparé de manière extraordinaire. On pourrait presque dire qu'il y a tout un discours dans ce film de Hitchcock et chez Hitchcock en général sur la, ce qu'on pourrait appeler la médiologie, enfin les médias, mm-hmm. au sens le plus général du terme. Alors il montre la partition, il montre les préparatifs, le personnage du criminel qui se prépare en écoutant cet air sur un phonographe ou à la radio, parce qu'il y a deux versions du film, mm-hmm. Et en suivant la partition. Et donc il y a tous ces supports ou surfaces d'inscription, le phonographe, la partition, etc. Puis finalement l'événement arrive, qui est cette grande ponctuation, et c'est une ponctuation très étonnante parce qu'au fond elle couvre le coup de feu, c'est sa fonction. Donc ce coup de cymbale masque le coup de feu, mm-hmm. ce qui fait que ce qu'on devait entendre, eh bien à la fois on ne l'entend pas et pourtant c'est marqué. Mm-hmm. Voilà. Très 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 étonnant, grand moment de cinéma.
Peter Zendy, il y a en Amérique du Nord un mouvement d'études universitaires, de recherche autour du son, qui s'appelle les Sound Studies, qui n'existe pas vraiment en tant que tel en France pour le moment, parce que le principe des Sound Studies aussi, c'est de casser peut-être certaines cloisons qui existent peut-être encore dans d'autres universités, dans d'autres pays. Est-ce que ça va exister en France ?
Oh ben je pense, c'est en train d'arriver depuis un moment déjà. Par exemple, le livre très important d'un des fondateurs des Sound Studies, qui est Jonathan Stern, oui. Son livre qui s'intitule en anglais The Audible Past, mm-hmm. a été traduit, je crois que c'est l'année dernière, aux éditions de la Philharmonie de Paris.
Mm-hmm. Il y a la découverte aussi.
Voilà, mm-hmm. Sous le titre, je crois, Une histoire de la modernité mm-hmm. sonore. Donc ça arrive, oui, bien sûr. Et puis, comment dire, une certaine approche plus... Allez, on va employer des grands mots, plus libre, mm-hmm. du phénomène sonore, de l'histoire de la musique, etc. arrive aussi, les études féministes mm-hmm. sur la musique. Donc oui, ça vient en France, même si c'est vrai que l'institution universitaire musicologique française a, je crois, longtemps résisté en mm-hmm. essayant de garder ces deux piliers qui seraient l'homme et l'œuvre. Mm-hmm. Voilà.
Mais ça va arriver, ça arrive, et vous en êtes un des pionniers. Merci beaucoup d'être passé par Supersonic, Peter Zendy, ce soir.
Un grand merci à vous.
Voilà, c'est la fin de Supersonic. Ce soir, on met une bibliographie, la vôtre, Peter Zendy, sur le site de Supersonic, sur franceculture.fr, afin d'orienter chacun utilement pour qui voudrait compléter. On espère qu'ils seront nombreux. Notre conversation de ce soir. Par ailleurs, petite annonce, demain dimanche à la BNF, autrement dit la bibliothèque François Mitterrand, c'est la proclamation et la remise des prix Phonurgia Nova, un rendez-vous annuel qui distingue les artistes sonores et radiophoniques. Cette année, ils ont été près de 200 à concourir pour 5 prix. La remise se fera donc demain dimanche en fin de journée, mais tout au long de la journée, les débats du jury sont publics. Vous pouvez donc y assister. Le jury en question est présidé cette année par l'artiste sonore québécoise Chantal Dumas. Supersonic est préparé et coordonné par Inès De Bruyne. La réalisation ce soir était signée Christine Robert et au son, il y avait Jason Taous. Comptez jusqu'à 5 et vous retrouvez les nuits de France Culture. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, tendez l'oreille et portez-vous bien.